Bonsoir, notre émission de ce jour est consacrée au témoignage de Raymond Barriol. Raymond Barriol fait partie de ces 1 343 000 jeunes français appelés entre 1955 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Raymond Barriol est né en 1934 dans une famille ouvrière à Saint-Étienne. Et très jeune, il intégra lui aussi le monde ouvrier. Quand il eut 21 ans, ce fut l'âge de partir au service militaire. Il s'exécuta sans angoisse particulière, avec un désir de voir du pays. L'armée fit de lui un combattant, et il devint un combattant un peu tir au flanc et indiscipliné, comme il le dit lui-même, mais un combattant affrontant les ennemis sans état d'âme et ayant confiance en ses chefs. Il en est revenu marqué pour la vie, comme il le reconnaît aussi. Nous vous donnons à découvrir son témoignage. Tous les témoignages que nous vous proposons sont différents. Le sien est aussi emblématique du vécu de certains appelés et mérite d'être entendu aussi à ce titre. Bonne écoute. Monsieur Barriol, bonjour. Je vous remercie de m'accorder cet entretien pour Radio Canu.
C'est avec plaisir.
On va évoquer essentiellement votre expérience pendant la guerre d'Algérie, mais on va puis voir depuis votre enfance comment tout ça s'est passé. Vous êtes né à Saint-Étienne ?
Je suis né dans le quartier du Soleil.
Mm-hmm. Voilà. Quelle date ?
En 1934, 1er septembre 1934.
Et l'enfance, vous l'avez passée là aussi
Alors, mon enfance, je l'ai passée, oui, dans le quartier. Je suis allé à l'école du Soleil. Mm-hmm. Donc, jusqu'au bombardement, enfin, avant le bombardement, je suis allé là, à l'école maternelle à côté, où, en 41, il y avait la commandanture au-dessus de nos têtes. On voyait passer les Allemands hein, dans la cour.
C'est sympathique.
Oui, c'est très bien. Mais nous, on était inconscients. De toute façon, c'était pas. Pour nous, c'était la guerre, mais enfin.
Bombardement, donc, vous l'avez vécu
hein? Oui, oui. Alors, pour le bombardement, une bombe est tombée contre la maison de mes parents. Maman était grièvement blessée. Nous l'avons traînée sur 1,5 km avec ma sœur jusqu'ici, là, à l'angle de cette maison où il y avait des camions. Toutes sortes de camions. Ils ont chargé maman dans le camion, directement, l'hôpital de Bellevue. Voilà. Mmh. Et nous, c'est une dame, la femme du docteur qui habitait là, qui nous connaissait, qui a eu un contact avec une de nos tantes. On s'est retrouvés à assurer le contact chez un homme qui nous a hébergés pendant quelques temps.
Et quand votre mère a été blessée, elle était seule dans la maison, vous étiez à l'école ou...
Non, on était là.
On était là avec ma soeur. Vous auriez pu aussi être blessée
dans la maison. On était dans la cave, on est sorti par un trou, bon, on ne sait pas par où, et avec ma soeur Paulette qui a 87 ans à l'heure actuelle, on a traîné la maman.
Votre père, lui
Et mon père était parti chercher une paire de chaussures à Rouen, et oui, parce qu'il travaillait, il était cheminot. Et il fallait qu'il aille à Rouen, donc comme il ne payait pas le train, il a cherché maman pendant 3 jours. Voilà. Et quand il arrivait dans les hôpitaux, tout ça, il arrivait à Bellevue. Maman, elle avait été soignée, mais elle était dans un couloir tellement qu'il y avait des blessés. Il y a eu quand même 1000 morts là dans le quartier. Mm-hmm. Elle était là dans le couloir, c'est elle qui l'a reconnue. Elle l'a appelé, mon père, elle l'a appelé Guste. Et il l'a reconnue là. Elle a fait 8 mois d'hôpital.
8 mois?
Oui, mais enfin, ça n'a pas empêché de venir à 94 ans.
Pas de grosse séquelle après.
Oui, ben, une plaie de 28 cm sur la tête.
Ah, oui. Et vos parents, on ne l'a pas dit, quelles activités ils avaient? Donc votre père cheminot
Alors, maman était mère au foyer, parce qu'on était 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et mon père était cheminot. Il était au chemin de fer à l'époque, je ne sais pas ce qu'il faisait. Enfin, il était chauffeur de dépôt, puis il a fini sa carrière comme mécanicien.
Mmh. Voilà. Vous, donc, le primaire dans le quartier,
alors,
et
le...
après
Alors, le primaire dans le quartier, j'ai eu le primaire dans le quartier, mais j'ai été réfugié de guerre aussi. en 42, à Chazay-sur-Lyon.
On vous a évacué ?
On nous a évacué parce qu'on habitait juste contre les voies ferrées du chemin de fer, là où on habitait, c'était des cités de la SNCF, quoi. Mm-hmm. Et donc, on nous a évacué, donc j'ai été réfugié pendant un an à Chazay-sur-Lyon.
Voilà. Évacué parce qu'on enlevait les enfants pour pas qu'ils risquent le bombardement.
Bah oui, bien sûr.
Donc évacué sans vos parents.
Non, mon père, regardez, mon père était réquisitionné au chemin de fer. Hein.
Ouais, ouais.
Ça avait avec les Allemands. Hein. Une fois, ils sont venus à la maison, un coup de crosse dans la porte. Au boulot, il y avait eu un déraillement. Oui, c'était ça. Mais nous, on était petits, on voyait pas les choses.
Oui, pas ça dramatiquement.
Non, pas trop. Pas trop, c'est vrai. Moi, je les ai vus défiler là, dans la rue, les Allemands. Et ils chantaient « Ali, allo », je sais pas quoi. Bon, on les regardait, nous, comme ça. On sortait de l'école, l'école était juste là.
Et donc, ce séjour à la campagne, vous en avez un bon ou un mauvais souvenir ?
J'en ai un bon souvenir. J'étais chez des... Alors là aussi, une anecdote. J'étais chez des cultivateurs qui me gardaient. J'allais à l'école des curés à Chazay-sur-Lyon. J'ai rien appris, d'ailleurs, à l'école. Mais enfin, bref, j'allais à l'école. Et un jour... Il y avait deux. C'est marrant parce qu'on était évacués à Chazel et il y avait un camp allemand qui n'était pas très loin, mettons 1,5 km sur une butte. Et les Allemands, ils venaient à la ferme chercher des œufs. Ils disaient œuf. Et un jour, il y en a deux, ils viennent en bicyclette. Et moi, comme j'étais gamin, j'avais 8 ans, j'avais enfourché le vélo d'un Allemand dans la cour. Et quand la patronne est sortie, une peur. Et ils se sont mis à rigoler. Ça, oui, c'était pas tout.
C'est plutôt bien passé. Mais le fait de plus être près de vos parents, vous en souffriez, non ?
Ben, je pleurais, oui, parce que c'est vrai, ça manque. Hein.
Ouais.
Mais j'étais bien. J'étais.
Moi, voilà. J'y ai bien déjà.
Oui. C'est vrai.
Et après, donc, le certificat d'études et...
Non, j'ai rien appris à l'école. J'ai appris que par la suite, comme ça, mais sans plus. Hein. Non, pas de certificat d'études. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ça. Vous savez, à l'école, quand il y a eu le bombardement, ça a été tout détruit. On allait dans les baraquements en bois. Et dans le baraquement en bois, l'hiver, comme maintenant, là, il y avait un gros poêle, vous savez. Et tant que les encriers n'étaient pas dégelés, on ne pouvait rien faire. On n'apprenait rien. Et si on n'apprenait pas, c'était au fond de la classe, c'est tout.
Alors qu'est-ce qu'on a fait de vous alors, en sortant de l'école ?
Eh bien, en sortant de l'école, en 1948, je suis rentré dans un bureau d'embauche, qu'on appelle, et je faisais les courses pour le courrier des ingénieurs. C'est une usine qui avait à peu près 10 000 ouvriers hein, chez Barouin. Et donc, je faisais les courses. Après, j'ai fait un petit apprentissage un an ou deux après, oui. Un apprentissage comme ajusteur. J'y suis pas resté. Après, je suis parti ailleurs. J'ai dû faire 11 ou 12 boîtes dans ma vie.
C'est votre père qui vous trouvait ce travail ou vous avez cherché tout
ça? Ah non, c'est mon père.
C'est votre père.
Mon père, mes tantes, tout ça. J'avais dû travailler énormément à l'époque. Vous savez, hein, un patron, en parlant poliment, hein. Surtout moi. Vous n'êtes pas content, je m'en vais. Hein. Le lendemain ou le surlendemain, on travaille ailleurs. Hein. Il y a du boulot partout.
On a du mal à se représenter ça aujourd'hui.
Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr.
Donc vous changiez chaque fois que ça n'allait plus.
Oui. Bon, mais j'ai quand même travaillé 14 ans dans une usine où on fabriquait les écrous. Je faisais du décolletage. Et 25 ans comme garde aux HLM. Vous voyez, j'avais deux boîtes comme ça, mais après le reste, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans le commerce, aux nouvelles galeries, je fais un peu partout. Quoi.
Donc, on va revenir un peu vers la période où on approche votre appel sous les drapeaux. Quoi. Mmh. C'était en quelle année
Alors, c'était en août 55. Parce que, pour la bonne raison, c'est que je suis de la classe de la 54 dehors. J'aurais dû être incorporé à 20 ans. Je suis parti au régiment, j'avais 21 ans.
Pourquoi ?
Je sais. Vous savez qu'il y a Thiers Bienfus, et à l'époque, ils étaient prêts à envoyer la troupe. Les appelés étaient prêts à partir en Indochine. Donc il y a eu diabète infus, ça s'est terminé. Mmh. Et alors c'est ce qui m'a reculé. J'avais 21 ans pratiquement, quoi. Je suis parti le 21 août. Le 1er septembre, j'avais 21 ans.
Donc ils ne vous ont pas appelé tout de suite parce que la guerre d'Indochine venait de se terminer, quoi.
Voilà.
Puis celle d'Algérie n'était pas commencée à l'époque. Enfin,
ben, si, c'était en 1954, hein, aussi. Ouais.
Qu'est-ce que vous saviez avant, juste avant 1954 de l'Algérie? C'est
rien du tout. Moi, je connaissais que les oranges.
Le début de la guerre, si on peut dire, c'est novembre 1954, mais enfin, c'était pas encore très connu à ce moment-là. Donc, c'est pas un sujet qui vous préoccupait. Quand vous êtes parti à l'armée, vous pensiez que vous alliez vous retrouver là-bas?
J'avais toujours envie d'aller dans une colonie ou enfin un endroit éloigné faire mon régiment, pas en France. Hein? J'ai dit, ben, tu pars en Algérie. Mais on ne savait rien. 54, et il y avait déjà un an que ça avait débuté. Hein. Mm-hmm. C'est la Toussaint 54, moi je suis parti au mois d'août 55.
Et vous êtes revenu quand?
Alors je suis revenu au mois d'octobre 57.
Ouais.
Et avec un mois et demi de libérable, bien sûr, je suis venu avec mon paquetage dans la maison. Le grand sac, comme ça.
Donc vous avez connu ce qu'on peut appeler le début de la guerre.
Oui, mais j'ai été appelé d'abord, il y avait déjà quand même un conflit, je suis parti en Tunisie. J'ai débarqué à Tunis.
Alors si on vient tout début, donc on vous appelle, vous faites votre classe en métropole fait... ou...
Oui, j'étais à Clermont-Ferrand.
À Clermont.
Au 92e régiment d'infanterie.
Mm-hmm. 3 mois.
J'ai fait combien 3-4 semaines.
Ah, oui.
J'ai tiré au flanc, comme on dit. J'ai tiré au flanc, alors un coup à l'hôpital à Clermont, un coup à Saint-Étienne, et puis quand je suis revenu, ça faisait 4 mois que j'avais tiré. Mmh. Et directement au bateau.
Au bateau pour la Tunisie.
Je suis parti, oui, pour la Tunisie.
Vous saviez ce que vous alliez faire?
Pas du tout.
Et les gens qui étaient avec vous,
on allait là-bas, bon, on savait que ça remuait un petit peu en Tunisie, et puis en Algérie, qu'il y avait des mouvements, mais on pensait pas que ça allait dégénérer comme ça a dégénéré.
Partir faire du tourisme, quoi.
Peut-être pas, mais enfin, vous savez, quand j'ai débarqué à Tunis, c'est que je me suis tapé 700 km pour rejoindre mon unité qui était à la frontière libyenne. Quand j'ai traversé ce pays, c'était désertique. Hein. Il paraît que maintenant, ça a changé énormément. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais moi, c'était le désert. Hein. Un petit train, un petit... on descend. On était en tête, on descendait. On pouvait prendre le train après, le bout du train. Hein. Tellement que ça allait doucement.
Ah oui. Et désert et pauvre, ou ça vous a sauté aux yeux, la pauvreté, ou il n'y en avait pas tant que ça?
Alors, je débarque à Tunis, on nous rassemble dans un grand terrain. Alors, il y avait les gars du 92e d'infanterie, il y en avait qui allaient au 23e et d'autres au 60. Et on est resté 2-3 jours, là, comme ça. Et j'ai vu des gamins...
Vous étiez combien, là? 50 ou 2000?
Ah non. C'est où? On était 2000, oui, plutôt, oui, vous voulez dire.
Oui.
Moi, je ne sais pas exactement.
Hein. Oui, mais enfin, beaucoup.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, là, c'est là où j'ai commencé à dire, mais j'ai vu, qu'est-ce qui se passe, là? Je voyais des gamins qui avaient comment ça s'appelle ça, des jabalos, je ne sais pas quoi. Mais vraiment, en piteux état, la gueule, les trucs comme ça, qui venaient ils nous amenaient une orange ou une mandarine qu'ils avaient piquée chez eux. Au pied noir, c'est le cas de le dire, et pour avoir des sardines, des trucs comme ça. Là, j'ai regardé avec mes yeux, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors après, j'ai vu autre chose en plus en Algérie après. Mais là, en Tunisie, bon.
Et vous êtes resté combien de temps en Tunisie?
6 mois à peu près.
6 mois. Et calme, quoi. Enfin, vous avez eu.
Oui, on a eu, non, pas moi des escarmouches, mais nous, on avait des escarmouches parce qu'on allait en Algérie. Parce que j'étais dans un régiment volant. On faisait que ça.
Vous faisiez des incursions en Algérie sur la frontière.
Tout le temps. On n'était pas en caserne, rarement en caserne. On bivouaquait. Tout le temps. J'ai des copains qui ont fait la guerre d'Algérie. Enfin, qui ont fait l'Algérie. Ils disent, on était en caserne, on jouait à la blotte, tout ça. Moi, j'ai jamais connu ça. Jamais. Jamais.
Quand vous dites bivouaquer, vous aviez des tentes,
des marabouts, des toiles de tente.
Mais des petites tentes personnelles.
Oui, oui, les petites tentes, oui.
Ah oui. Et votre rôle, c'était quoi? C'était de poursuivre des félagas, des combattants?
On les voyait pas trop, là, à cette époque-là. On refoulait des gens. On refoulait qui franchissaient les frontières, tout ça.
Pour venir en Tunisie?
Oui, voilà.
Et pourquoi ils venaient en Tunisie?
Je sais pas trop.
Vous savez pas?
Je sais pas trop. On appelait ça un petit peu la pacification, hein. On essayait de...
Oui.
On a commencé par essayer de...
Vous avez pacifié? Vous avez...
Un petit peu, oui. On leur donnait des cigarettes. On les rassemblait, vous savez, dehors. Et les vieux qui avaient fait la guerre de 40, hein, ils sortaient avec leur tartine, leur médaille, tout ça.
Bien sûr.
Ils avaient peur, hein. Les enfants, les femmes, tout ça.
Et vous les respectiez, leur médaille, ou
pas? Moi, j'ai respecté. Hein. Il y a certains endroits, ils n'ont pas respecté. En Tunisie, on a eu des morts. On a eu des morts, mais différemment, parce qu'il y avait eu un accrochage, paf, ils se vengeaient. On a eu un gros coup en Tunisie, c'est à Indram. Le 31 mai 1957, la Tunisie était déjà indépendante. Bourguiba avait pris le pouvoir, vous savez, néo-destour. Il avait pris le pouvoir, et il y a eu une armée tunisienne. On a donné des armes, tout. Et eux, ils nous emmerdaient. Parce que nous, on était en Tunisie encore, parce qu'on n'était pas tout à fait partis. Et un jour, on leur est tombé dessus. On a tué 21.
En race campagne ou en ville?
Non, en race campagne.
En race campagne.
Dans les chaînes Liège, à Indram, ça s'appelait. Et ils nous ont arrêtés. Le commandant, il a été essayé de parlementer avec le capitaine. Et ça a déclenché un tir. Ils ont appelé du renfort, trois camions sont arrivés. 21 Tunisiens, c'est monté jusqu'à l'ONU. Hein.
Ouais. C'était des militaires tunisiens, ça.
Des militaires tunisiens, oui. Ouais.
Et qu'est-ce qui a déclenché ce massacre, vous pensez? C'était une volonté? C'était prévu à l'avance ou
Non, pas du tout. On en avait marre qu'ils nous accrochent. Mm-hmm. Et bon. C'est passé comme ça, ça a commencé à tirer parce que le capitaine tunisien, il avait attrapé le commandant de nous, il le secouait comme ça.
Ah oui.
Et bon, nous on était en haut, on a tiré. Et donc le commandant Schilling, il a réussi à se dégager, ça a commencé à s'attirer après les Tunisiens, on n'en tuait pas parce qu'ils étaient dans les bois aussi, mais ils ont appelé du renfort par la route et nous on était au-dessus de la route. Quand ils sont arrivés,
et 24 morts, vous dites, mais...
21,
mais tous morts, ou il y en avait d'autres qui ont échappé?
Il y a eu des blessés, il y en a un qui était dans un fossé que j'ai fait prisonnier, d'ailleurs, qui était avec une mitraillette, et qui m'a dit « camarade ». Bon, parce que quand il y a eu, à la fin, « arrêtez le tir », il y a un sergent-chef, Dorner, il dit « il faut un volontaire pour aller au résultat ». Moi, comme un imbécile, je suis parti avec lui. Mais enfin, il n'y a rien eu pour moi. De toute façon, ça s'est bien passé, quoi. Mais c'est affreux. Hein.
Et comment vous viviez ça, vous?
Ah ben, je l'ai mal vécu, hein, toute ma vie. Même maintenant, j'aime pas trop parler. Hein. Bon, ce qui s'est passé, c'est que on a tué ces gens-là. Et on les a emmenés à la caserne d'Hydrome. Et le même soir, il a fallu rendre les corps à la caserne qui était en dessous. Tunisienne, et le lieutenant, il dit, vous les anciens, dans les camions, vous descendez les morts en bas, et les armes sous les sièges, vous entendez? Manifestation, il y avait plus de 500 personnes autour des camions, la peur de ma vie, je m'en souviens de ma vie, hein. Enfin, bref.
Ça s'est passé comment?
Non, ça s'est bien passé, puis il y avait des houhou, on avait peur.
Il n'y a pas eu de...
Non, mais on était prêts, hein. À prendre nos armes. On les aurait pris, hein. Mais je crois qu'on serait fait massacrer.
Quand même? Vous n'auriez pas eu le dessus?
Je sais pas. Ouais, il n'y avait pas d'armes. Du côté d'eux, il n'y avait pas d'armes. Mais je sais pas. Enfin, il y avait l'armée tunisienne, mais je sais pas. Parce que le général qu'on avait, c'est le général Gambiez. Le général Gambiez, Il tournait avec les coups. Et il avait dit, si vous attaquez l'armée française, on bombarde le village. Puis ça s'est pas fait.
Enfin, vous n'aviez pas de haine particulière contre les Tunisiens ou les Algériens?
Non. Mais j'en aurais jamais. Mais combien de fois je disais aux Hollandais, chiens, si on pouvait déposer les armes, arrêtez ça, ce massacre, parce qu'ils avaient raison. Après tout.
L'histoire a fini comme ça. Hein.
Ben oui.
Hein. Leur
on raison. A raison de se révolter quand vous êtes exploité par les colons. Parce qu'il y a des sacrés salopards là-dedans. Hein. Et puis ceux qui nous commandaient. Là.
Les colons, vous les avez fréquentés un peu?
Pas trop. Il y en a qui les ont fréquentés. Non. Moi, je n'allais pas vraiment dans les fermes. Nous, on était opérationnels. Hein. Mmh. J'allais pas dans les fermes. On arrivait dans des fermes qui avaient brûlé, hein, des trucs comme ça. Mais vous savez, quand vous avez des colons, c'était super riche, hein, 11 tracteurs. Je regardais ça, j'ai vu ça en France, moi. Jamais. 300 ouvriers. Ben, fallait voir. Ils ont des fraîchis en Tunisie, les vignobles, tout ça, les orangers, tout. C'est vrai que c'était, il y avait des beaux trucs, hein. On a tout perdu. Il aurait fallu négocier.
Là, on était en Tunisie, là. Ce dont vous parlez, c'est en Tunisie.
Non, pas la Tunisie. En Algérie.
Ça, c'est en Algérie.
Mais en Tunisie, il y avait des colons, une fois ou deux, on est allé. Plutôt français, hein, en Tunisie, les colons. Ouais. Quand ils sont en Algérie, c'était différent. C'était les Espagnols, les Italiens, je crois.
Alors, je ne comprends pas bien le passage de la Tunisie à l'Algérie. Il y a un moment où vous n'êtes plus en Tunisie, vous êtes en Algérie, ou vous êtes resté jusqu'à la fin de votre service militaire sur la frontière, comme ça?
Je suis resté sur la frontière, oui. C'est-à-dire, quand Bourguiba a pris le pouvoir, il a débarqué à Bizerte, vous m'avez entendu, hein, qu'il allait nous foutre dehors. Bien sûr, il nous a foutu dehors. À part Bizerte qu'on a gardé, puisque c'était une base de sous-marine, hein, qu'on a gardé longtemps, puisqu'il y a eu des gros problèmes. Hein. Mmh. Et nous, on est partis de l'autre côté de la frontière, sur la ligne Maurice de Barbelé. Là.
Donc on a le côté algérien.
Côté algérien, mais on rentrait en Tunisie parfois. Mais parce qu'on avait une zone de 5 km. De, comment on appelle ça, démilitarisé, voilà, où tous les jours, les avions passaient. Et s'il y avait quelqu'un, même si c'était un berger, il le bombardait, hein, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'y être. Et nous, du côté de l'Algérie, il y avait une voie de chemin de fer qui longeait la ligne Maurice, la ligne électrifiée, hein, qui longeait le long avec les automitrailleuses, tout le temps ils patrouillaient. Moi, j'ai jamais fait cette patrouille, mais nous, on était toujours dans la montagne.
Et vous étiez un petit groupe? Comment c'était, un commando?
On était 120 bonhommes.
120,
oui.
C'est quoi, une compagnie?
Une compagnie, oui. Mm. 120 bonhommes et 4 sections. Alors, il y avait une section qui partait le matin, qui crapahutait dans la montagne. Elle revenait à midi, il y en avait une autre qui partait l'après-midi, et une de nuit qui montait les embuscades. Voilà. Et parfois, la commandement, et parfois on faisait les grosses opérations, alors c'était un régiment.
Votre objectif, c'était d'empêcher les échanges entre l'Algérie et la Tunisie de,
ben oui,
de matériel, de combattants, j'imagine.
Vous savez, quand on a donné l'indépendance à la Tunisie et au Maroc, ça a été le malheur. Parce qu'ils venaient nous accrocher en Algérie et ils se repliaient en Tunisie. C'est pour ça que ça a duré. Enfin, moi, mon avis personnel. Hein.
Et donc, une fois passé en Algérie, après l'indépendance tunisienne, donc jusqu'à la fin, vous avez vécu cette vie d'accrochage, de...
Ah oui, oui.
Et en fait, vous accrochiez beaucoup, quoi. Bah c'était, oui, pas seulement de la surveillance.
Vous savez, en 1976, on m'a donné la médaille. À l'époque, comme je fais partie des anciens combattants de la FNACA, à l'époque, il fallait 9 opérations de feu pour avoir cette médaille. Maintenant, on la donne comme ça. Enfin bref, c'est pas grave.
Et quand vous accrochiez, c'était toujours sur des combattants ou...
Ah oui, bien sûr.
Vous n'avez pas trop fait l'évacuation de villages et le groupement de population?
Non, nous on faisait pas. On y allait, si. Mm. On allait dans les méchants, dans les gourbibes. Parce que les villages, il ne faut pas me parler de villages, moi. Il faut me parler des huttes. C'est ça qui me choque, moi. Vous arrivez là-bas, vous voyez des gens qui vivent dans des huttes.
Des bâtiments en pierre, quand même, non?
Pas du tout.
Rustique.
Ah ben, des bâtiments en pierre dans les villes. Mais ceux qui étaient dans la montagne.
Dans la montagne.
Ils étaient dans la montagne, ils n'avaient rien. Mais rien. Des huttes. Donc, les Mechtol, les Gourbis, les Douers, c'est ça, hein. Moi, j'étais dans les Aurès. Les gens, ils descendaient en ville. Parce que jamais. Parfois, ils descendaient avec une bourriche. Ils avaient du lait caillé, vous savez. Mmh. Et ils descendaient sur les zones. Ils allaient le vendre en ville. Nous, on arrivait avec la baïonnette. Hein. On ouvrait, hein. Et ça partait tout par terre. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. On avait des ordres, c'était...
C'était les ordres, ça, ou c'était le zèle des...
Non. On disait, tu fais ça, puis c'est tout, hein. Mmh. Comme la Gégène, par exemple.
Vous l'avez connu aussi, c'est pratique.
Je l'ai vu. Je n'ai pas participé. Et j'aurais participé, je ne vous le dirai pas. Je ne suis pas le général Ozares qui est décédé aujourd'hui. Vous avez vu ce journal?
Oui. C'est...
Hein? Mmh. Eh ben celui-là, hein? Pardon.
Ben lui, c'était... Enfin bon, il y a tout le problème des services spécialisés.
Exactement.
Vous les avez rencontrés aussi?
Non. Moi, je vais vous dire, j'étais pas un militaire, moi. J'étais indiscipliné. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'avais des officiers qui étaient comme ça. C'est vrai qu'ils nous ont jamais dit de faire des atrocités. On a déconné parfois, mais enfin pas.
Donc la GGN, comme vous dites, c'était sur des prisonniers dont vous vouliez tirer des renseignements. Quoi.
Exactement. Vous savez,
ça
ce
marchait.
Que
hein? Ça marchait les renseignements.
Je peux pas vous dire, moi. Moi, j'étais soldat, moi. Ouais. Deuxième classe, alors. Hein, je participais pas à ces trucs-là. Par contre, parfois, on avait des prisonniers. On les donnait à d'autres unités. Et ces autres unités, c'était eux qui étaient chargés de faire le reste. Hein.
Oui. Les DOP.
Ben voilà.
Mais ils se déplaçaient, ces DOP, ou vous emmeniez les prisonniers?
Non, on emmenait une unité, une compagnie, qui eux, qui faisaient la liaison, et puis qui les emmenaient. Hein. Moi, j'ai jamais vu... Bon, on a eu des prisonniers, mais on a rigolé des moments avec. Ça va pas. Moi, j'ai fait ma petite guerre. J'ai combattu, ça c'est sûr. Je suis tombé dans des embuscades, ça c'est sûr. Il m'est arrivé de tuer, ça c'est sûr. Mais ça s'arrête là. En atrocité, non. Comme j'étais radio.
Radio, vous n'aviez pas d'âme.
Non, mais c'est pas moi qui m'occupais de la radio. Parce que moi, j'étais poste sur l'épaule. Là.
C'est vous qui le portiez?
Eh ben oui, pendant 18 mois, je l'ai porté.
Ah oui?
Ouais. Et donc, quand le capitaine est là-dedans, il
donc part. Vous étiez toujours à côté de l'officier.
Ah oui.
Donc vous saviez tout. Vous entendiez tout.
Oui, j'entendais pas mal de trucs, mais enfin. Et puis j'ai été éclaireur de pointe aussi.
C'est quoi ça, éclaireur de pointe?
Éclaireur de pointe, c'est les gars qui sont à l'avant. C'est-à-dire, on est deux ou trois. C'est-à-dire qu'on a, mettons, à s'en remettre devant les autres. Si on voit quelque chose qui ne va pas, tout le monde suit. Ouais, c'est ça, hein. C'est dangereux, bien sûr.
Ben oui.
Mais en tant que compagnon avec le capitaine, ça aussi c'est dangereux. Parce que les autres, là-bas, ils visaient les officiers. Hein, en premier, pour déstabiliser la troupe. Hein.
Et pas de choses vraiment douloureuses, quoi. Vous teniez le coup moralement.
Ben oui, on tenait le coup.
Pas de déprime, pas.
Ouais, c'était là. Vous savez, j'ai mis 21 mois pour venir en permission. 21 mois sans venir.
Parce
qu'il y avait, il y avait toujours des embuscades, alors il fallait partir. On a eu la scarlatine, on a eu des décès dans la compagnie, on a eu tout un tas de trucs. Et à pleurer. La dernière fois que je devais venir, je commençais à pleurer. Parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils nous enlevaient les armes. Vous avez rendu les armes la veille, et puis vous partez demain. Comme ça. On faisait 15-20 km, par exemple, pour aller jusqu'à Bonne. Moi, j'étais à la cale, il y avait plus que ça, et on partait, pouf.
Et vous risquiez quelque chose dans ce trajet?
Bah, évidemment.
Mais vous n'aviez pas d'armes, mais ceux qui vous accompagnaient...
Ils étaient armés, eux. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on était tombé dans une embuscade? Vous me le dites, hein?
Qu'est-ce que vous auriez voulu, alors? Un trac pour vous ramener?
Au moins mon arme, je suis copeur. Hein, au port, ils nous ont fouillé nos pactages, ils avaient peur qu'on emmène des armes ou des affaires.
Donc. C'est curieux cette confiance que vous aviez dans votre arme, parce que avoir votre arme, ça ne vous dispensait pas d'être une cible avant que vous ayez eu le temps de la prendre par quelqu'un qui vous attendait au bord d'une route.
La mitraillette, elle était toujours là. Hein. Ouais. C'était armé. Hein. Moi, j'avais trois armes, c'est bien simple. Je vais vous dire pourquoi. J'avais la mitraillette, Mat 49, le 51 de la Manu, là, plus un pistolet de comme les officiers. C'est-à-dire que quand j'avais mon poste radio, j'avais mon pistolet. Et quand le capitaine il disait, les gars, carte blanche, ça voulait tout dire, il disait, attention, on risque d'accrocher. Alors là, je prenais la mitraillette. Parce que la mitraillette, quand même, on peut mieux se défendre qu'avec un pistolet. Il y a 25 balles hein, dans le chargeur.
Et vous dormiez avec vos armes la nuit?
Bien sûr, mais quand on était dans les bois, vous savez, dans la montagne, hein, on dormait. On avait les armes. Hein. On prenait un caillou, on prenait notre veste, on le mettait sous le caillou comme ça faisait oreiller. Moi, je suis resté 3 mois dans la montagne, dans les oreilles, sans descendre. C'était que des rations. Parfois, ils montaient la popote. Ils arrivaient à passer, ils montaient. Alors, c'était des frites en pagaille. Alors, tout le monde se sautait dessus. Parce que les bois de rations, je vous dis pas. Hein. C'était, alors il y avait les bleus, puis enfin il y avait deux sortes, les américaines qui étaient, c'était de la guerre, hein, de la guerre d'Indochine probablement, enfin il y en a qui ont dit que c'était le 40. Alors dedans il y avait sardines, pâté de foie, un machin de nougat, un truc de nougat, un paquet de cigarettes dégueulasses, c'était de la paille, une petite bouteille de rhum ou un truc comme ça, quoi. Enfin, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait, quoi. Pas grand chose, quoi. Un biscuit, puis c'est tout. Quand on n'avait pas de pain, on n'avait pas de pain. Moi, j'ai perdu 10 kilos à l'armée. Il y en a qui ont graissé, mais pas moi.
Et les hélicoptères, vous ne ravitaillez pas, non? Vous aviez
non.
L'eau, par exemple.
Nous, on n'a jamais fonctionné avec
les hélicoptères.
C'est juste une fois en opération qu'on a eu un blessé.
Pour les blessés.
Ouais, ouais, les blessés.
Et l'eau, vous la trouviez où?
Alors, l'eau, c'était des citernes qui montaient.
Avec des camions.
Aussi. Des sources aussi. Il fallait se méfier des sources. Nous, on a eu 7 morts à cause de ça. Hein.
Savoir.
Ben oui. Les gars, ils ont. On était en opération, c'était un 13 août. On était en opération, on avait descendu une montagne, un djebel, comme on dit, et en bas, il y avait un loued, c'était une petite rivière, et on remontait de l'autre côté. Et on n'avait pas d'eau depuis la veille, on n'avait plus de flotte, on avait 2 bidons, mais c'était tout vide. Et ces gars-là, qui étaient devant, ils ont trouvé un trou d'eau. Et ils y sont allés, et les autres étaient au-dessus. Donc, un de Saint-Étienne-le-Vray a été abattu. Donc, nous, on est montés. On est montés à l'assaut quand on a vu ça. Il faisait du vent ce jour. Et c'était pas bête, les felous. Quand ils nous ont vu arriver, ils ont mis le feu. Et comme il y avait du vent, d'ailleurs, c'est là que j'ai eu ma citation.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Mais j'ai sauvé un gars, tout simplement. Non. Tout le monde est redescendu la colline. Le gars, il était épuisé par terre. Je l'ai récupéré. Je traînais avec moi et un officier, Lascari, il s'appelait. Il m'a vu. Il dit, mais il y a encore un gars là-bas. Ils sont descendus me chercher avec le gars. Moi, j'ai été évacué en ambulance. Et lui, en hélicoptère. Je suis passé à côté du colonel. Je me tente vous dire, s'il m'avait dit quelque chose, je crois qu'il a eu le reste. Ah oui, mais j'étais comme ça. Hein. Ouais. Et ils ont commencé à bombarder avec le napalm. Allez voir. Hein. Et moi, j'étais encore dans la montagne.
Ce jour-là, quoi.
Ce jour-là. Il y avait 5 heures que j'étais déporté disparu. Eh oui, 5 heures. Et donc...
Vous étiez isolé de tout.
Mais oui, tout le monde était parti. Et donc...
Comment donc, ils peuvent partir en se rendant compte après, que vous n'êtes pas là?
Fallait voir l'unité qu'on était. Ils se sont pas rendus compte. Moi, j'étais pas là. Heureusement que ce lieutenant m'a vu. Et donc, il y a eu le napalm. Et là, le régiment ou la compagnie, j'en sais pas quoi, on a été exempt d'opération. Et ils ont envoyé d'autres unités, je sais pas qui c'est qu'il y avait, hein. Des commandos, la légion, on était comme ça. Groupes, hein. Ouais. 400 rebelles.
Qu'ils ont tués.
Ah ouais. Ah oui.
C'était un camp organisé, donc.
Probablement. Moi, j'ai pas su. Je sais pas. Moi, j'ai été évacué. C'est tant mieux pour moi, d'ailleurs.
Mais vous étiez épuisé par la fumée, par la fatigue, par quoi? Vous n'étiez pas blessé.
Mais non, mais c'est le feu.
C'est le feu.
C'est le feu qui nous a fait fuir. Moi, j'ai vu mon capitaine courir comme un lapin.
Est-ce qu'il progressait vite, ce feu?
Ah ben oui. Ah oui. Eh oui, parce que quand ils ont vu ça, ils ont dit, allez, hop, on fout le feu. Et puis on était épuisés parce que ça faisait 2 jours qu'on crapahutait, plus de flotte, plus rien. Des trucs. Mais enfin, c'est.
Et le collègue que vous rameniez, plus fatigué que vous encore?
Ah, oui. Et donc, c'est un gars qui était dans ma compagnie. Quand il est revenu de l'hôpital, il n'a même pas daigné me remercier. Et je n'ai jamais rien dit. Et je ne sais même pas son nom, en plus.
Donc ce lieutenant, vous n'aurez pas vu avec ses jumelles, vous ne seriez pas là aujourd'hui, si?
Peut-être que si, mais j'aurais peut-être pu être prisonnier par les autres. Hein. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il soit descendu, puisqu'il y avait le feu, donc on était de l'autre côté. Je pense qu'on m'aurait retrouvé.
Vous auriez réussi à vous échapper.
Oui, mais à m'échapper pour aller où? Je ne connaissais pas, moi, du tout. Dans le bled.
Vous n'allez pas aller bien loin.
Oui.
Ce qui se passait ailleurs en Algérie, vous n'étiez pas spécialement au courant. Quoi.
Non.
Côté de frontière marocaine, Algérie.
Moi, je ne savais rien. Il y a des copains qui disent qu'ils recevaient des trucs. Nous, on est au courant de rien. Hein. Moi, ma mère, elle me suivait à la trace. Parce que elle avait la carte et tout.
Vous arriviez à envoyer des lettres tous les jours?
Ah oui. Non, pas tous les jours. Non, toutes les 3 semaines, des trucs comme ça.
Ah, 3 semaines.
Ah, oui. Et nous, on recevait ces secteurs postal. Hein. Et ma mère, elle savait que par une lettre, quand il y a eu les événements d'Imdram, là, avec les Tunisiens, elle m'envoie une lettre, elle me dit, oui, Marie-Mon, je sais que t'étais là, tout ça. Je dis, mais oui, maman, j'étais là, mais je n'ai pas participé, moi. Et des copains, ben c'était le contraire, ils racontaient.
Et la censure n'arrêtait pas ces échanges d'informations?
Non, je n'ai jamais vu parler de la censure, non. Et après, par la suite, quand on a été maintenu sous les drapeaux, puisque j'ai fait 1 an de plus, alors là ils n'étaient pas contents par là. Au lieu de mettre sur les lettres, je disais à ma mère, tu mets pas soldat bariole, hein, tu mets maintenu. Ah, ils n'aimaient pas.
Donc là, maintenu, vous avez eu une mauvaise surprise quand vous l'avez appris que vous étiez
ben
maintenu.
Oui, bien sûr.
Comment vous avez réagi?
On a subi, que voulez-vous? On était payé. On était payé. Vous savez qu'un sergent, il gagnait 56 000 francs par mois. À l'époque, et moi j'avais 25 000, c'est-à-dire que j'avais un peu, c'était 12 000 en deuxième classe, mais comme mon frère avait été dans le maquis pendant, en 45, 44, là, et après il s'est engagé dans l'armée, dans les tirailleurs marocains, quand ils ont libéré Saint-Étienne, il était soutien de famille. Et moi j'avais écrit à mes parents, oui, j'ai droit à la place de Roger, de mon frère. Et ma mère voulait rien, pas faire les démarches, c'est mon beau-frère qui s'en occupait. Ça fait qu'on m'a augmenté mon salaire à cause de ça.
Vous êtes resté deuxième classe.
Ah oui.
Ils n'ont jamais fait de vous un caporal, même?
Non.
Vous n'avez pas voulu
ou... Si. Non, je n'ai pas voulu du tout. On m'a proposé, oui, pour faire le peloton. Je n'ai pas voulu. Et j'avais 24 mois d'armée. Quand mon lieutenant il m'a dit, Bariole, on te met première classe. C'est ce que ça veut dire. Hein? Je lui ai dit, j'en veux pas. Ça me faisait 10 francs de plus.
Mais caporal, c'était plus les mêmes fonctions, non? Ça aurait été moins dur.
C'est pareil. Il faisait les opérations comme moi. Hein. Caporal, sergent, caporal, chef, ça va. J'en ai rien à foutre.
Et effectivement, vous aviez laissé, je sais pas, une fiancée ou des amis?
Il n'y avait pas de fiancée. J'en avais plusieurs.
Et ça vous a pesé, cette coupure?
Non. J'écrivais à une fille qui était de Saint-Genélaire, comme ça. Elle m'envoyait un petit peu des petits chèques, c'était intéressant quand même. Et puis un jour, avec une de ses amies, À l'époque, il y avait une radio qui diffusait des chansons pour les militaires. Donc, il y avait eu « Un jour, tu verras, on se rencontrera ». C'est quoi, Mouloudji, je crois. Tout ça, c'était passé à la radio, mais moi, il n'y avait pas de radio.
Pour vous.
C'est en France qu'ils l'ont entendu, qu'ils m'ont dit.
Il avait passé pour dédicacer pour vous.
Dédicacer pour Raymond. Oui, bon, c'était...
Un jour, tu verras, l'on se rencontrera, quelque part, n'importe où, guidés par le hasard, nous nous regarderons, et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de barbarie. Cet air pour nous sera le plus beau, le plus joli.
Et en dehors de la fois où vous avez sauvé votre copain, il y a des fois où vous avez eu très peur, où vous avez pensé que vous en tireriez pas. Non ?
On ne pensait pas. On pensait à rien. Non, absolument pas.
Vous aidiez avec l'alcool, non ? Bon.
Pas du tout. J'ai pris des cuites à la bière. Malade, oui. Non, pas trop, parce que quand on arrivait à des moments à être stable, c'était... On a occupé des usines de plomb abandonnées. Donc on était là, il n'y avait plus de fenêtres, il n'y avait rien, bon, on rentrait là-dedans. Et le mess, hein, tout de suite, le sergent-chef-major, je ne sais pas quoi, il allait à la ville la plus près et il ramenait des bières. Donc on montait un petit mess et puis on buvait de la bière. Quoi.
Enfin, c'était pas ça qui vous... Vous, c'est pas ça qui vous a permis de tenir, quoi. Bon. D'autres épisodes dont vous vous souvenez
Qu'est-ce qu'il faut vous dire
un intérêt, je sais pas.
J'ai mis très longtemps à me remettre parce que il y a eu une embuscade d'un jour, un copain à moi qui était dans un 4x4 avec des officiers qui allaient rejoindre une compagnie. Ils sont tombés, lui il était maître chien. Ils sont tombés dans une embuscade. Ils ont tous été tués, pas lui. Disparu. Le chien, grièvement blessé. Donc, on a récupéré le chien, qu'on a décoré, on lui a présenté les armes, monsieur. Eh oui. Et lui, disparu. Et puis, on entendait dire qu'il était prisonnier en territoire tunisien, à Béjar, je ne sais plus où. Donc, on me libère, 5 mois après ma libération, ça faisait 18 mois qu'il était prisonnier, avec 2 autres que je ne connaissais pas, hein. Robert de Cortex, il s'appelait. Ils ont été fusillés par le FLN, en territoire tunisien, à Ain Sultan. Ils ont été fusillés pour cause, le général de Gaulle a fait guillotiner un étudiant qui avait fait sauter quelque chose à Alger ou à Oran, je ne sais plus où, qui a eu des morts, il a été guillotiné. Et en représailles à ça, ils ont fusillé ces 3 soldats. Si c'est ça, hein, parce que j'ai trouvé un livre où il y avait un petit article à ce sujet. Et moi, j'ai mis 10 ans, je ne sais pas combien, pour retrouver cette famille de ce gars-là. Je les ai retrouvés dans le Puy-de-Dôme.
Pas loin.
Oui, je leur ai écrit. Voilà, c'était super, ses frères, tout ça. Ils m'ont invité, j'ai passé un week-end là-bas. Ils m'ont invité, et ben ça m'a apaisé. J'ai toujours gardé ce souvenir, ce garçon. Un innocent, il n'avait jamais rien fait. Parce qu'il est parti 2 mois en Allemagne, pour faire le stage de médecin. Il était dans ma section. Il couchait à côté de moi dans l'usine de plomb. Mmh. Et il est parti là-bas 2 mois. Il est revenu peut-être 1 mois après. Il tombe dans l'embuscade. Et ils l'ont fusillé à cause de meurtre, viol, enfin tout un tas de...
Fusillé longtemps après, quoi. Pas tout de suite quand il a été arrêté, quoi.
18 mois.
18 mois après, il a fait 18 mois de prison.
18 mois, moi il y avait 5 mois que j'étais libéré quand ils l'ont fusillé. Je vois ça en tête de journaux, hein, je vous dis pas. Hein.
Mais ce type, vous pensiez à lui un petit peu tout le temps, quoi.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vous savez, ça marque... Certaines personnes, moi ça m'a marqué énormément, l'Algérie. Énormément.
Et comment vous l'avez vécu, cette permission ici? Parce que enfin, j'ai vu des gens qui m'ont dit on n'avait qu'une envie, c'était de repartir, quoi, parce que c'est tellement un univers différent de retrouver la vie normale par rapport à ce que vous connaissiez là-bas.
On ne trouve pas la vie normale. Moi, je n'ai pas trouvé la vie normale. Je suis venu en permission, j'étais paumé, moi, complètement, même quand j'ai été libéré. Hein. Pendant 3 mois, ça a été la galère. Vraiment, on était perdus. On n'était plus là. Hein. Et je crois même, je vais vous dire, des moments j'y pense, j'ai dit, moi je me suis tapé 28 mois. J'ai dit, si on avait dit encore, vous allez rester encore 1 an, je ne sais pas si on n'aurait pas massacré.
Ah oui, massacré qui?
Oh non, mais attendez, il y a ras-le-bol. Je me demande si on ne serait pas devenu sauvage.
Ouais. Par rapport à la hiérarchie militaire.
Voilà. Ou... Non, mais attends, ouais. On aurait massacré les autres, oui. Bêtement, parce qu'on devenait dingos, quoi. Non, il aurait fallu que je fasse 1 an de plus. Hein. Moi, bon, reculé, hein, combien de fois? La permission, moi, j'ai des copains qui sont partis 2 fois en permission. Hein. Moi, c'est qu'une fois. Hein. Ma grand-mère est décédée, on ne m'a pas donné de permission. Mon frère, il s'est marié, on m'a refusé la permission. Ma mère m'avait envoyé l'argent pour prendre l'avion. Enfin, bon, c'est vrai que j'étais un mauvais élément au niveau de discipline, mais je crois qu'ils m'ont...
Ils estimaient qu'ils avaient besoin de vous ou...
Non, pas plus de moi qu'un autre, non. J'étais pas un élément. J'étais un bon soldat, oui, c'est sûr. Mais indiscipliné, quoi. Je rousse peut-être, j'ai fait une batte avec des sous-officiers. Quitte tes galons, tu vas voir.
Pas de mutinerie, quand même.
Non, mais c'est vrai, bon, ils se dégonflaient, hein, puis ils avaient peur de leur galon. Hein. Figurez-vous qu'un sous-officier se bat avec un soldat. Hein. Moi, j'aurais dérouillé, mais lui aussi. Hein. Il le savait très bien. Par contre, j'en avais d'autres, des sergents, ils étaient super gentils. J'avais un adjudant, Malinowski, il s'appelait, super gentil, ce bonhomme. Non, mais c'est vrai qu'on était pas mal entouré. Les officiers, j'ai pas... C'est vrai, j'ai même pas l'armée, mais vraiment, ils nous ont bien conduits. Heureusement qu'on les avait. Hein. C'était des anciens d'Indochine. Hein.
Oui, ben oui. Ah, ouais.
Alors, moi, j'ai vécu beaucoup dans la chaleur. Surtout en Tunisie, là-bas au fond de la frontière libyenne, hein, je vous dis pas. J'étais à Foum Tataouine.
Mais il faisait chaud et il faisait froid aussi, la nuit, non?
Ben, la nuit, ça descendait à zéro.
Oui.
Et on montait les embuscades en territoire libyen.
Ah oui.
Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un endroit, ça s'appelait le Faisan, qui a été annexé par la Libye. Donc ça n'existe plus. Et on allait là, on interceptait les caravanes qui venaient d'Égypte. Oui. Alors on y allait, là, bon, dans la nuit, on couchait par terre dans le sable, et le matin, les mitraillettes. C'était plein de sable, la bouche partout, tout ça. Et parfois on interceptait 2-3 caravanes, mais je veux rien.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ces caravanes?
Des armes.
Des armes?
Et bien sûr, ça venait d'Égypte. C'est des armes qui venaient de Russie, je ne sais pas où, hein, qu'on disait. Hein. Léon D, moi j'en sais rien. Mmh. Mais nous, on n'a jamais trouvé d'armes. Non. Parce qu'on n'y est pas trop resté, quoi. On y restait, on repartait. J'ai fait Gabel, j'ai fait Souche, j'ai fait Sfax, j'ai fait Hammamet, j'ai fait... Non, la Tunisie, je la connais par cœur. J'y suis jamais retourné.
Vous vouliez voir les colonies, vous les avez vues, là.
Ah oui, oui. Oui, oui.
Ouais. La fin de votre séjour, donc, ça se passe bien, vous...
On débarque à Marseille. Et à Marseille... direct la gare Saint-Charles. Et là, dans un train. Et le train, il monte sur Lyon. Et dans toutes les gares, il y avait les CRS. Et nous, on avait déjà tout cassé dans le machin. Et chaque fois que le train démarre, salut, fumier en Algérie.
Donc là, vous étiez quand même un peu remonté.
Oui, oui, ah, ben, bien sûr. Et on arrive à Lyon. Alors à Lyon, pareil. Hein. On descend du train. Vous allez où? Ils étaient tous là. Hein. J'ai dit, mais moi, je vais à Saint-Étienne. Eh ben, dans 4h, 5h, le train. J'ai dit, mais moi, il y a des cars dehors. À Perroche. Ils m'ont laissé sortir.
Et vous encadrez serré.
Quoi. Ah oui, oui, oui. Alors, moi, je suis sorti parce que j'avais le sac comme ça. Je suis sorti, j'ai pris le car. Il y avait deux gars avec moi qui étaient de la région, de la Haute-Loire. Donc, on est parti. Et le pactage à la maison. Et 35 jours de permission libérable. Et il fallait rendre le pactage à la gendarmerie. Et moi, j'ai dit, papa, j'aurai rien du tout. J'ai dit, ils me le doivent. C'est mon père avec son vélo soleil qui a été la gendarmerie le porter. Vous voyez, comme quand j'étais remonté. Hein.
Et le retour, donc, vous me disiez, 3 mois...
Malade.
Malade. Dans la tête ou dans le corps?
Dans le corps. J'étais... Non, mais j'étais mal, j'avais froid, j'étais vraiment... En plus, ma tête, elle fonctionnait plus. Un jour, je me promenais. Je suis descendu, j'allais voir le patron qui m'avait embauché avant, bien sûr qu'il me reprenait, évidemment.
T'es obligé de toute façon, non? À l'époque.
Oui, je pense. Puis il m'aurait pas repris, hein. Oui. J'ai trouvé du boulot. Et donc, non, mais il m'attendait. Et je traverse la rue, c'est les voitures qui montaient, mais je me suis retrouvé sur le capot d'une voiture, parce que c'était axé sur l'Algérie, ça m'est resté. Et en plus, cauchemar.
Ah oui.
Le cauchemar, des cauchemars, mais alors de la folie, à hurler.
Cauchemar de quoi? De combat, d'armes?
Je ne savais pas trop. Vous savez ce que j'ai fait?
Non.
Avec ma femme couchée à côté de moi, faire un cauchemar, mais vraiment violent, le matelas par terre à la bonne forme avec. Hein. Ah oui. Et là, vous voyez, aujourd'hui, on vient d'en parler. Ça se pourrait que j'aie un cauchemar.
Cette nuit, vous dormirez mal.
C'est ma nature, c'est comme ça. Mais j'en suis revenu. Il y a quelque chose. Ici, là, dans le quartier, il y en a 6 qui sont morts là-bas, qui ne sont jamais revenus. Et un qui a disparu.
Et au bout de combien de temps vous avez repris... Enfin, vous allez me dire, même aujourd'hui, vous avez toujours des traces, mais au bout de combien de temps vous êtes revenu à la vie à peu près normale?
Je suis revenu assez rapidement à la vie, mais j'y ai toujours pensé.
Le boulot tout de suite, non? Le travail tout de suite?
Ah oui. Tout de suite, non, mais à bout de 3 mois, peut-être 3 mois, 4 mois, je ne sais plus. J'aurais voulu aller travailler. Je pouvais y aller tout de suite, mais mes parents m'auraient dit non, tu te reposes. Ah oui, parce que vous voyez bien dans l'état où j'étais.
Et pendant ces 4 mois, 3-4 mois, qu'est-ce que vous avez fait? Vous restiez à la maison? Vous sortiez?
Mes parents étant en retraite, ils étaient à la campagne. J'allais aux champignons, c'était l'époque. Et il y avait beaucoup de champignons en plus. Et puis mes parents m'ont bien gâté, quoi. Et ma mère se levait la nuit, elle m'entendait, je couchais la chambre dessus. Parce qu'ils avaient acheté une maison, ils étaient à la campagne. Et elle montait comme une folle quand elle me voyait aller. Ça y est, mon Raymond, il est encore tout renversé là-haut.
Et après, dans le travail, vous avez repris comme avant?
Comme avant. Vous savez, j'avais pas le temps de m'ennuyer, comme j'étais très 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 vaillant.
Vous n'étiez pas devenu spécialement agressif ou...
Non. Et même avec le recul, je deviens même plus doux. Vous savez, quand je vois les gens qui sont racistes comme ça maintenant, alors que moi, j'aurais pu... Parce que j'ai des copains là, dans le film, là. Ils le sont racistes, ils sont restés racistes. Moi, non. Non, bon, il y a certaines personnes qui se comportent mal. Moi, je dis, c'est vrai que... Hein, c'est tout. Mais disons que... C'est vrai, moi je connais beaucoup d'Arabes. On se parle bien, moi j'embrasse même des femmes arabes.
Et la conscience politique, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais elle vous est venue quand, comment, là-bas, après, vous avez un moment pris conscience que c'était une affaire de colonisation, quoi, de vivre au crochet de ces gens-là.
Vous croyez que l'Algérie, c'était un truc colonialisé? Non, c'était un territoire.
Pour vous, c'était un territoire.
Ben oui, je croyais que c'était la France, moi, vraiment, hein, comme la Corse, au même titre. Enfin,
non, mais avant 1835, il n'y avait pas un Français. Non, mais il y a un moment, quand on est militaire comme ça, où on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait là, qui on sert, à quoi on sert.
On ne sert à rien. C'était pas notre place. Ouais. Vous savez très bien que nous, quand il y avait quand même 9 morts par jour en Algérie. 9 morts par jour, ça a duré 8 ans. Et comment ils arrivaient, les gars, là? Dans une caisse. Les honneurs, ils n'en avaient pas. Tant on aurait pu rendre. Bon, ils s'en fichaient, les gars. Mais on n'a pas eu d'honneur, hein. Rien. Rien, rien. Ça n'a pas bien bougé pendant qu'on était là-bas. Qui c'est qui nous a soutenus, nous? Qui c'est qui s'inquiétait, les parents qui avaient leurs enfants là-bas? Mais les autres personnes, on n'en parlait pas trop en France. D'abord, c'était...
Oui, quand même. Si De Gaulle a réussi à arrêter, à mettre fin à la guerre, c'est aussi parce que la population française en avait marre, quoi.
Oui, d'accord. Hein, et De Gaulle aurait dû le faire avant.
Oui.
On en parle. Vous. Mais qui c'est qui a manifesté le mieux? C'est le Parti communiste. Les partis communistes.
Si c'était à refaire, vous, avec le recul, vous partiriez ou vous déserteriez?
Je partirais.
Vous partirez.
Ben oui. J'ai pas envie de me retrouver en prison ou au peloton d'exécution. Hein. Hein, qu'est-ce qu'il a fait, Pétain, hein, et d'autres à Verdun, hein? Ils ont tué les gens, hein, parce qu'ils avaient peur, hein, qu'ils désertaient. Tout le monde qu'on doit déserter. Donc la guerre, ça ne devrait pas exister. Ça existe toujours et ça continuera.
Oui, vous êtes parti avec l'idée de servir la nation, quoi.
Moi, on m'aurait dit, Bariol, hein, tu fais pas de régiment. Mais tant mieux, je ne serais pas parti. Hein, pendant 28 mois, on ne m'a pas donné un salaire. Hein.
À la fin.
Oui, aussi peu. Ah, maintenant, on a la retraite du combattant.
Elle n'est pas énorme.
On a 600 et quelques 80 € par an. Et oui, bien sûr qu'elle n'est pas...
Pas que ça convient.
Non. Elle n'est pas énorme, mais on nous a reconnus quand? Il n'y a pas tant longtemps. Hein.
Et vous participez aux actions, aux réunions de la FNACA ou
Bien sûr.
Organismes?
Bien sûr, à l'Assemblée Générale, tout ça. Puis on a des activités. Tous les mercredis, on joue aux cartes, on se rassemble. Vous savez, la politique, j'en fais plus, à mon âge. Hein, je fais plus. Quand j'étais jeune, j'ai été délégué de la CGT, je vous le dis franchement.
Voilà, on a tout dit. Vous avez encore quelque chose que
vous... Eh bien, vous êtes très gentil. Au revoir, t'es où? Thank you.
Thank you.